ערב טוב, חודש טוב. שמצא זה ספי, קצת אום רבב ליבה.
קצת
זה ספי. ערב טוב, חודש טוב, הוא ספרוש דו חג הפסח, זה פרס חומית ודו, דז'ה חג שמח. חג שמח, אבל אני מזור, הוא שימשין כי הדז'ה דז'ן כי סון רוטורני און אסקלבאז' Alors justement, non, je suis retourné en esclavage, j'ai commencé à nettoyer.
Il y a un
terroute.
T'as
un petit bas couché,
non?
Ouais, c'est un
terroute
ça?
Mais la poussière n'est pas Hamed, hein.
Alors c'est ça, justement, alors, ma phrase d'introduction à nos... On va avoir deux cours sur Chag HaPesach, et la première phrase d'introduction c'est de dire... Et c'est pas seulement vrai pour Pessah, c'est vrai pour toutes les fêtes juives, et vrai pour tout Bichlal, le judaïsme. Il faut être normal. C'est-à-dire, y compris pour le nettoyage de Pessah, il faut être normal. Maintenant, je sais que cette phrase-là, elle rentre en friction totale et en contradiction totale avec des millénaires de Minagim, de Sponjot. Et donc, l'homme est chané, ce qu'on va dire au niveau de la halakha. Ça ne changera rien. Kachazé. Même si on sait que la poussière n'est pas Hametz, même si on sait que Batachles, dans une famille où il n'y a pas de petit enfant en bas âge, ou, comme dit la Gemara, de poule. Non, parce que la Gemara elle dit si tu as des enfants en bas âge ou des tarnégolotes, babaït, alors tu dois vérifier dans chaque recoin parce qu'il peut y avoir du Hametz partout. Comme j'ai pu retrouver une gaufrette dans mon tiroir de chaussettes cet après-midi. Et quand j'ai demandé à mon fils qu'est-ce qu'elle faisait là, il m'a dit « Ah, tu l'as retrouvé !» Donc voilà, mais il l'a mangé, évidemment. Bon. Donc, en malasot, il faut être normal. Ce qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, enfin, je suis très présomptueux, mais l'objectif, c'est que, avant Chag HaPesach, on sache de quoi on parle. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'on étudie la Haggadah pour que vous n'ayez pas à la lire. Je m'explique, vous allez la lire, très bien, tatapa, patapoum. Aval. Le soir du Seder est un jour de fête. Donc, un, on n'est pas obligé d'être complètement mort parce qu'on a nettoyé chaque grain de poussière de la maison. Et deux, on n'est pas obligé de rendre cette soirée-là. On n'est pas tous des gens qui sommes sortis de la yeshiva. On n'est pas tous des gens qui sont à la yeshiva et qui ont envie de parler toute la soirée. Il y a des gens, je ne sais pas combien vous allez être respectivement dans vos soirs de Seder, mais il y a des gens qui ont des invités. Des gens bien, des gens normaux, qui n'ont pas envie d'attendre 2h30 avant de pouvoir manger. Ça commence déjà tard, je parle même pas de ceux qui sont encore en France. Ça commence tard, le temps qu'on mange, on n'est pas obligé de rendre ça rébarbatif, saoulant et ennuyeux. On n'est pas obligé de faire tous les pérouchim possibles et imaginables pendant la lecture de la Haggadah. Conseil pratique que j'ai reçu du Rav Jerky, mais qui à mon avis est dit partout. Si vous avez envie de faire des divrei Torah pendant le Maggid, maximum 3. Et de maximum 2 minutes chacun. Zéo.
En personne.
En tout. Parce que, je sais pas comment vous êtes chez vous. 10 personnes autour de la table.
40.
Bonne chaleur là. Trouvez des idées, faites des jeux, faites des trucs, mais...
J'ai plus de la parole à Nathan
sur le
Pessah.
T'as vu, c'est fini. Pourquoi? Il peut en faire 3.
32 minutes.
32 minutes. Non, par contre, quand est-ce que tu gardes tes grands divrei Torah? Le repas. Non, le repas, lâche-toi. Les gens, ils ont mangé, machin, c'est pas ça. Quoique, faut pas en faire trop non plus, parce qu'ils doivent continuer et finir le Hallel. C'est ça? Mais bon. Mais qu'ils soient, faut être normal. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce soir. La mitzvah principale, c'est de raconter. Et le problème, c'est que c'est tout sauf ce qu'on fait le soir du Pessah. Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas le soir de Pessah? Parce qu'on est occupé à faire autre chose. On est occupé à lire. Lire la Haggadah. Or, l'objectif, c'est pas de lire la Haggadah, mais c'est de raconter la sortie d'Égypte. Je dis pas qu'il faut pas lire la Haggadah. Il faut lire la Haggadah. Mais il faut surtout raconter. Et savoir comment raconter, ben c'est d'abord savoir ce dont on parle, quelle est l'histoire de Pessah véritablement. Donc, ce qu'on va faire, on va étudier tout simplement la Haggadah. C'est pas un truc qu'on doit faire le soir du Seder. On le fait maintenant et la semaine prochaine pour qu'on n'ait pas à le faire le soir du Seder et que le soir du Seder on se concentre sur la Sipour. Arbeut el Kef. Sipour c'est mieux. Alors on y va. Vous allez voir que c'est une Haggadah qu'on connaît. Moi j'aimerais simplement vous donner des petits tipim et voir qu'en vérité, il y a un fil conducteur qui vont amener au Maguide, et ça on y arrivera ce soir, et que le Maguide lui-même est construit de manière très claire. On va rentrer, Léat Léat, dans le vif du sujet. Bon alors, on rentre, et il faut bien comprendre que le soir de Pessah, je vous ai dit, il faut être normal, c'est pour répondre à une autre problématique qui fait que toute cette soirée du Seder, elle sonne faux. Toute la soirée qu'on va faire, ou du moins qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a un truc qui sonne faux. On va voir que ce truc qui sonne faux, il revient et il revient et il revient. Peut-être pour que nous, on se prenne conscience qu'il y a un problème. Vous allez voir de quoi je parle. Alors on arrive à la maison, tout va bien, et on lance Kadesh. Bon, là j'ai pas grand chose à dire. Kadesh, c'est pas propre à Pessah. Chaque fête, Kiddush Hayom, Hakol Beseder. Une fois que j'ai fait mon Kadesh, je rentre dans les problèmes. C'est-à-dire, alors, vous avez vos Haggadot, vous pouvez prendre le début de la Haggadah, après le Kadesh. Qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de Kiddushim, hein, ça, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a après Kadesh? Ukhrat. Qu'est-ce qu'on fait dans Ukhrat? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? Netilat Yadayim. Sans bracha. Qui se lave les mains?
Le
chef de famille, tout le monde.
Tout le monde.
Non, ceux qui ah, alors tu dis quelque chose. Attends, tu dis quelque chose d'intéressant. Deux secondes. Tu dis pourquoi on fait Kadesh ou Khat? Pourquoi on fait ou Khat?
On va tremper
quoi?
Le carpas.
Le marron, non pas le marron encore. On va tremper le carpas. Et alors?
Donc avant de tremper,
ah, donc toi tu dis, parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, tout ce qui est trempé dans l'un des sept liquides qui est marchir le Touma, tu dois te laver les mains. Et je vais en faire un petit sondage éclair dans cette assemblée ici. Qui le fait tout le temps? Je sais pas, par exemple, ça vous est déjà arrivé de tremper votre croissant dans le café? Café au lait? Faites des tilatia d'aïm d'abord. Ouais. Non, je fais un sondage. Je fais un sondage. Tu dis oui. Je fais un sondage. Donc toi, tu fais. Tu laves tes mains. Non, tu laves ta pomme. Tu dois te laver les mains avant.
Non, mais on lave en même temps les mains quand on lave.
Ah, on se lave en même temps les mains. Non, c'est là ta fesse. Mais on doit se laver les mains. On doit faire un tilatia d'aïm quand on lave la quand on a lavé sa pomme. Comment ça? Ah, tu la sèches d'abord. Donc parce que tu la sèches d'abord, Azik Varloch, voilà les camels tout moins. Yochola le kabel douma, ok. Alors tu fais?
Une pomme tamée c'est meilleur.
Ah, une pomme tamée c'est meilleur. Hein. Alors non, je fais un petit sondage. Qui dans cette salle, à chaque fois qu'il va tremper quelque chose, dans l'un des sept liquides, bon en l'occurrence nous ce qui nous intéresse, le lait et l'eau, c'est de manière générale le mainstream, je vois pas beaucoup de gens qui trempent dans le sang, donc c'est le cédère. Qui le fait? Allez, levez les mains. Donc il y a une personne ici, deux.
Yoni, il fait.
Non, il n'a pas envie de lever la main, laisse-moi te dire, je ne veux pas être. Non, il a envie de tremper son petit gâteau lotus dedans, tu vois, tranquille. Mais il n'a pas envie de se prendre la tête à l'aise. Donc, même si Yoni lève la main, ça ne fera jamais que trois personnes sur tout le monde. Et encore, c'est parce que vous êtes des Sfaradim. J'aimerais bien voir dans une communauté ashkénaze qu'il y ait une personne qui lève la main. Il n'y a pas. Et même chez les Sfaradim, on a la majorité de Sfarad ici, il y a trois personnes qui ont levé la main. Pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas. Lama, Zikatouf Bashoukhan Arour. Hein? Lona, qui a dit Lona Agou? Le Chaya Adam. Chaya Adam, il a dit c'est vrai que c'est marqué dans Shoukhan Arour qu'il faut Lona Agou. Maintenant, moi ça ne me dérange pas que Lona Agou. Adéraba, Lona Agou, mais c'est la Gamour. Alors, à ce moment-là, pourquoi tout le monde se prend la tête le soir de Pessah et le fait? Imlo Nahagou. Ah, tu dis c'est pour poser la question. Seulement, on n'a pas encore entamé le Maguide. C'est-à-dire, on n'a même pas encore entamé le Veiga de Talebincha. On n'a même pas encore entamé le fait que je dois envoyer mon fils. Ça y est, il pose des questions.
La sortie d'Égypte, t'avais pas encore Minag.
Que?
À la sortie d'Égypte, on n'avait pas encore Minag. Lo Nahagou, ça te fait ce
point. Non, Lo Nahagou, c'est par rapport au fait de tremper, de se laver les mains avant de tremper quelque chose.
C'est quoi là? Quand on est sorti d'Egypte, s'il y avait la halakha, c'est
ça. Ah, tu dis quand on est sorti d'Egypte, la halakha c'était de se laver les mains.
Il y a pas
qui t'a dit?
Hein?
Qui t'a dit?
Il
n'y
avait pas encore
de halakha.
Il n'y avait pas encore de halakha à ce moment-là non plus.
Oui, mais c'est. La tsuchibalpé, elle existait quand même.
Attends, je comprends pas. C'est pas parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça? Attention! Par exemple, t'as entendu parler d'un Rav qui s'appelait le Rav Meir Yehuda Getz. Le Rav Goetz, c'était, donc Bismano, c'était le Rav du Kotel. C'était également le Rosh Yeshivat Amekoubalim Betel, donc c'est bon, un rabbin de Ligue des Champions. Un ancien de Tunisie. Et il raconte que lorsqu'il était encore en Tunisie, qu'il apprenait le rabbanout, à un moment donné, il est arrivé au Ilchot Shrita, Vetrefot, Vinyanim. Et il raconte qu'en Tunisie, ils n'avaient pas l'habitude de manger halak. Car, je ne sais pas s'il y a des Tunisiens ici. Il dit, en Tunisie, on n'avait pas l'habitude de manger halak. Jamais. Et quand il est arrivé donc, au Shulchan Aruch, il dit que celui qui ne mange pas halak, c'est Taref. Il est venu voir ses rabbins et ils lui ont dit, Rabotenu, on mange Taref. Marqué un Shulchan Aruch, Maran. Et ses rabbins lui ont donné une réponse extraordinaire. Il m'a dit, dis-moi, et avant Rabbi Yosef Karo, on ne mangeait pas de viande? Non. Rabbi Yosef Karo, il pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a d'autres rabbins qui ont pensé autrement. Donc, si tu veux, le fait est que Am Israël, il ne fait pas d'abord chez Tiboulou Bemashkech, Rabbi Yetiat Nedaï. Il y en a qui font. Alors, on va dire qu'il faut faire. Il y en a qui font. Je dis pas que vous ne pas. Mais la majorité, l'écrasante majorité du peuple juif, elle ne fait pas.
Mais la réponse simple, c'est que quand ils ont écrit la Gada, il y avait le minhag de le faire, donc ils l'ont écrit.
Dama t'en m'a dit.
Parce que c'est logique.
Attends, mais par rapport à quoi tu dis? Quand ils ont fait la Haggadah, il y avait le minhag de le faire.
Sinon, ça serait pas écrit.
C'est quand qu'ils ont fait la Haggadah?
Un
Tchèque Nesset Agdola, non? Un Tchèque Nesset Agdola, ils peuvent m'écrire dans la Haggadah, par exemple, Maasé, Berabé Eliezer, Berabé Yoshua, Berabé Lazar.
Non, ils ont concocté.
La Haggadah, le noussard de la Haggadah tel qu'on a aujourd'hui, c'est à Savoraïm. C'est-à-dire au 7e siècle. On est déjà plus Bezman Bet Amigdash. Donc c'est quoi l'histoire? Bien l'histoire, c'est tout ce que vous avez dit, mais venez on le met ensemble. Behemet, c'est quoi cette halakha que Kol Davar Shetibulo Bemashkecha Ben Tiat Edaim? C'est parce que, lorsque je l'ai trempé, Azoum Mourchar le Kabel Touma, il peut recevoir de l'impureté. Et quand moi je suis dans une époque où je vais au Bet Amigdash, et que je vais amener sur la table dans 2 minutes Korban Pessah, je peux pas être en mode Touma. Donc, je vais tremper mon carpas dedans, je peux pas être en mode Touma. Donc, je vais me laver les mains. Ah, on le fait pas dans l'année. Lama lona agou omer achaya adam ki kashé midai. Vas-y, kashé midai. Eh oui, parce que aujourd'hui, ça veut rien dire de se laver les mains avant de manger une pomme. Il n'y a pas de inyan Touma vetahara. On n'a plus de bétamigdash. Et donc, behemet lona agou. Maintenant, le soir de Pessah, ken na agou. Pourquoi? Tout le monde, Ashkenazim, Sfaradim, pourquoi? Eh bien parce que on va ouvrir, alors désolé d'utiliser cette formulation très française, mais on va ouvrir le premier coup de gueule de la soirée. Il y en aura plusieurs. C'est le premier, on part en cacahuète et on dit je ne suis pas d'accord. Toute la soirée, on est là pour dire à Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Le premier je suis pas d'accord, c'est quand je me lave les mains avant de manger mon carpas. Je ne suis pas d'accord. De quoi? De rester dans cette situation où l'on a. En gros, je suis en train de crier, clapper ma la en disant je veux mon bétamigdash. Je veux mon corban. C'est le premier coup de gueule de la soirée avant même qu'on ait commencé à raconter toutes les histoires. Donc, une fois que je me suis lavé les mains, bon, après, Minagim, est-ce que c'est le père, le chef de famille, celui qui va toucher le carpas? Non, mais chaîne. D'ailleurs, tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui et la semaine prochaine, si vous avez un minag, vous gardez votre minag. C'est-à-dire, c'est le plus important le soir de Pessah. Donc c'est ma sorette numéro uno. Une fois qu'on a assez lavé les mains, on prend carpas. À la fin mode. C'est quoi le carpas? C'est quoi le carpas?
Du céleri.
Du céleri. Marloquette. Tu serais pas un peu ashkenaz sur les bords? Il y en a plein qui le font. Parmi ceux qui le font, il y a moi. Parce que je choisis la solution de facilité. Dans la mesure où j'aime pas le céleri et j'aime bien les patates. Aval, soyons honnêtes. Mais soyons honnêtes. Pourquoi est-ce qu'on mange le carpas? Avant de savoir ce que c'est, pourquoi on mange le carpas? Non, c'est pas le maror. C'est pas le maror. Carpas, c'est un petit légume, en l'occurrence le céleri. Mais pourquoi on mange le carpas?
Pour ouvrir l'appétit.
Alaka, kedel iftoach et avon. Vas-y, ouvre l'appétit avec des patates.
Un kilo.
C'est pas du tout le rayon. Ah maman, mala, sauf qu'en Pologne, ils n'avaient pas de céleri, ils avaient des patates, alors ils ont fait avec des patates. Maintenant, Besseder, c'est quoi le lien du carpas? Carpas, on a dit, ben mettre le carpas, c'est céleri. D'accord. Chavlam, hein? l'amant prend le céleri. C'est quoi notre coup de gueule lorsqu'on prend le carpas? Alors, Nachon, Liftor Tate Avon, Zedarkam Shel Benechorin, c'est comme ça que font les hommes libres pépères, on est là, on s'ouvre le Tate Avon, parce qu'on va se faire exploser l'estomac, on va se faire un repas de déglingos dans deux secondes. Donc on s'ouvre l'appétit, je veux bien. Mais pourquoi le carpas? Toute la soirée, c'est de la symbolique. Alors là, Madafka Carpas. Là, Madafka Carpas. Eh bien, les amis, c'est une explication absolument incroyable du Malbim qui dit que le carpas, le céleri, d'où est-ce qu'on apprend le carpas? De Yosef. Yosef, il avait un habit particulier. C'est quoi l'habit qu'il a reçu de son père? Ktonet Passim. Omer Malbim Sham. Que la Ktonet Passim, est-ce que c'est en longueur ou en largeur? Hein? C'est intéressant. Obélix vous dira que c'est, tout le monde le sait, c'est sur la longueur que ça amincit. Mais on ne sait pas. Le Malbim dit, non, on sait que c'est sur la longueur. Lama, qui est Ktonet Passim, et ça ressemble au mot Karpas. Passim, Karpas. Or, ce légume-là, le céleri, eh bien, il a des rayures sur la longueur.
Mais pourquoi il y a...
Pardon? Oui, mais le carpas, c'est pas des pommes de terre. Non, attention, attention. Le carpas, à la base, c'est un légume qui s'appelle le céleri. Mal à sorte que les juifs qui étaient exilés dans les terres nordiques de Pologne n'avaient pas de carpas. Donc ils ont dû prendre ce qu'ils avaient sous la main pour faire qu'il ou genre carpas. Ils ont pris des pommes de terre. Mais c'est sûr que c'est pas l'idée, quoi. D'accord?
Mais pourquoi Yosef maintenant?
Ah! Alors pourquoi Yosef maintenant? Zebidou Kainian. Qu'est-ce qu'on va parler toute la soirée?
Comment on est arrivé?
On va parler de quoi? Non, pas seulement de l'Egypte! Mais de la sortie d'Egypte! Or, la sortie d'Egypte, il nous faut un Koach Manéa! Il nous faut un Koach Manéa, il nous faut quelque chose qui va nous faire sortir d'Egypte! Cette force-là qui nous fait sortir d'Egypte, d'abord et avant tout, c'est Machenikra, Mashiach Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef, elle se retrouve pas dans Yosef, mais dans la Ketonet Passim de Yosef. Et donc lorsque je viens et que je mange mon carpas au début du Seder, je viens dire voilà, je me rattache à ce qui va me permettre de sortir d'Égypte, c'est-à-dire à la force nationale du peuple juif. D'accord? Donc j'ai ouvert mon Seder en disant je ne suis pas d'accord de rester en situation d'exil, et pour bien te montrer que je ne suis pas d'accord de rester en situation d'exil, la première chose que je fais, c'est de me rattacher à ce qui me permet de sortir d'exil. Ma chère Bénice. Donc j'ai mangé mon carpas, oui, je suis content.
Ils n'ont trouvé que ça, genre le lien,
le couteau d'être passif, le carpas, ça va être comme ça. Tu dis c'est un peu tiré par les cheveux, non? Quoi? Genre quoi? Propose?
Bah, si on creusait la tête pour trouver le couteau d'être passif.
La rhubarbe.
Yosef. La rhubarbe. Est-ce qu'ils avaient de la rhubarbe?
En Pologne,
mais. Ouais, en Pologne, mais pas en Maroc. Ah, bah voilà. Oui, mais attention, je veux bien. Trouve-moi une autre symbolique, mais n'oublie pas que ça doit passer par la paix.
D'accord, mais bon, on ne carpe pas, ça passe.
Faut manger.
Oui, une côte de
la par là. Ah non, c'est un jeu de mots. Mais dis-moi, tu sais pourquoi? Tu sais quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu es en train de me faire une marloquette limoudite sur une soirée de Sipourim. C'est-à-dire que c'est bidiouk ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, c'est très bien de le faire ici. Mais c'est bidouk l'anti-raïon du soir de Pessah. Le soir de Pessah, on rentre pas dans des pilpoulim. On raconte des histoires. En tant qu'histoire, ça passe bien, le coup de la tunique, le céleri, Obélix. Ça passe. Mais quand tu vas rentrer dans le limoud, t'es sorti de l'alassader. Tu comprends? C'est pour ça que c'est bien ce qu'on fait là maintenant. Ta marloquette ici, elle est bonne. Je te dis oui, mais c'est pour rentrer dans le sipour. Alors après, le céleri, t'aurais pu prendre autre chose. Zenachon, agave. Si tu prends autre chose, il y a de ça ta vie des chobas. C'est au niveau de la halakha pure et simple, le mec qui a mangé sa pomme de terre, il a fait son carpas. Ça a l'air. Mais il y a une sipour derrière. D'accord? Maintenant, une fois que j'ai mangé mon carpas, qu'est-ce que je fais? Kadesh uchatz, carpas, yachatz. Ça va, on dit, mais c'est yachatz. On coupe la moitié du milieu, lama. Alors d'abord, on va dire ce que la Gemara elle dit, comme ça tout le monde connaît.
Ce sera la mer qui s'est ouverte.
C'est pour ça. Ah, il a fait. C'est pour se rappeler la mer qui s'est ouverte. On n'est pas encore là, on n'est même pas encore sorti d'Égypte.
C'est ce qu'on m'a dit.
Et puis attends, et si on va sur l'Omidrash qu'elle s'est ouverte en 12. Tu coupes en 12 la matzah. C'est compliqué. Alors la Gemara dit qu'ils aient lechem oni, la matzah. Et donc c'est le mode des gens qui n'ont pas, des anim, des pauvres, que de ne pas manger un pain entier, parce qu'ils en gardent pour demain, toujours un peu plus. D'accord ? Donc c'est pour ça que lechem oni. Top. Ça va, va. Mais venez, on met autre chose. Vous savez que normalement, yachat, cette deuxième partie qu'on garde, c'est pourquoi ? C'est pour la fikoman. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire quand je mets mon yachat ? Normalement, je devrais être en train de couper ma matzah ? Normalement, je devrais être en train de me couper une cuisse de mouton ! Pour garder pour la fikoman. Et c'est mon deuxième coup de gueule de la soirée ! J'ai dit, comment ça ? Je coupe une matzah ! C'est long ! Nachon, c'est lechem oni ! Mais l'objectif du lechem oni, c'est donc de couper et de garder pour moi. Mais la deuxième partie, je vais la manger aussi, en tant qu'afikoman. Afikoman, c'est pas de la matzah normalement. Et donc, tout de suite, je suis censé arriver à cette prise de position. Je ne suis pas d'accord que ce soit une matzah. Une fois que j'ai dit, j'ai présenté la soirée en disant je ne suis pas content de ma situation d'exil. Que donc, je suis prêt à manger directement ce qui va me permettre d'en sortir. Et qu'en plus, je viens dire, encore une fois, qu'il me manque mon korban Pessah à la Shulchan, alors on peut commencer. Alors on peut véritablement commencer la mitzvah de la soirée. La mitzvah de la soirée, elle commence ici.
On ne mange pas d'agneau, là, pour essayer de manifester un mécontentement.
On ne mange pas d'agneau.
On pourrait manger la place pour
dire ça y est, on y est.
Voilà.
Mais justement, pour éviter un gros problème, le peuple juif, il a pris sur lui de ne pas manger de viande grillée le soir de Pessah. C'est un minagim. Non, c'est pas tout ça, je connais. Chez vous, on mange de la viande grillée.
L'agneau,
on mange ou pas chez vous ?
La veille.
J'ai pas parlé d'agneau là pour le coup.
Il
est cuit, non ? Tu fais de l'agneau au barbecue le soir de Sadar ?
Pas de barbecue, mais.
Ah, c'est pas de barbecue. Non, j'ai pas parlé d'agneau. J'ai dit, Am Israël a pris sur lui de ne pas manger de viande grillée. Alors attends,
Chez nous, on met un noche.
La majorité, l'écrasante majorité du peuple juif, je vais arriver au Thémanim dans deux secondes, du peuple juif, ils ont pris sur eux, c'est un minag, de ne pas manger de viande grillée le soir du Seder, justement pour ne pas penser que c'est le Korban Pessah. Les Ashkenazim, ils ont été plus loin, ils ont dit non seulement on ne mange pas de viande grillée, mais en plus on ne mange pas d'agneau. Grillé ou pas grillé ? C'est-à-dire ? D'accord. Les Thémanim, qui, on le sait, ne se sont jamais pris la tête avec les considérations de Khumrot, eux, ils n'ont pas pris ce minag-là. Ils mangent de l'agneau grillé le soir du Seder. Et c'est très bon. Il n'y a pas que les Thémanim d'ailleurs, il y a aussi la communauté de Rome, qui n'ont jamais pris sur eux le minag de ne pas manger de vin grillé. C'est-à-dire, donc Zénachon. Mais la majorité du peuple juif, ils ne mangent pas de vin grillé. Pourquoi ? Bah parce que si tu commences à manger de la viande grillée, tu sais ce qui va se passer ? Et de l'agneau grillé, la malo ? Et à un moment donné, tu vas te dire, bah c'est bon, j'ai plus besoin d'un corban, tu sais. C'est-à-dire que ça va faire l'effet inverse. Parce que tu te diras, c'est bon, je suis content de ma situation. Non, je suis pas content de ma situation. Parce que finir mon repas sur un bon shawarma, bien qui coule comme ça, tu vois. Oui, je suis content. Finir mon repas et j'ai plus rien le droit de manger après, quand je me suis bourré avec kazaït matzah, je suis pas content. Et donc, c'est bien ça qu'on parle, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, agave, témanim, pas témanim, cette phrase, je vais être obligé de la dire en hébreu, parce qu'on ne peut pas la traduire en français. Quand on était à l'armée, il y avait un klal, un principe de base, pour tout ce qui était du domaine des halakhot. Alors, je vais le dire en hébreu, je m'excuse. C'était sur tous les sujets. Ashkenazim, machmirim, sfaradim, makelim, témanim, lonag. Comme ça c'était un clal, un principe barzel. Mais Kitsour, une fois qu'on a présenté la soirée, c'est parti, on y va et on fait la mitzvah de Pessah. Oui, il y a plein de mitzvot le soir de Pessah, mais il y en a une qui est principale, c'est celle du Magui. Veigadeta lebincha bayom avu lemor, c'est la mitzvah numéro 1, la mitzvah principale. Tom, c'est effémère, mais moi j'ai un problème. Parce que si c'est la mitzvah numéro 1 de la soirée, et c'est Behemet Kacha, c'est une mitzvah, oui ou non, de raconter la sortie d'Égypte? Oui. C'est une mitzvah assez ou l'autre assez?
Assez.
Assez. Ouais, alors qu'est-ce que je dois faire avant de faire une mitzvah assez normalement?
Bracha.
Où est ma bracha? Tu fronces tes sourcils. Là, va. Quand tu fais une mitzvah assez, tu dois faire une bracha. Iné, regarde. Plus tard dans la soirée, tu vas manger de la matzah. C'est une mitzvah. Ok? Shivat yame matzot tochelu. Et donc, qu'est-ce que tu fais avant de manger? Bon, on va t'acheter un peu de mecha, là. Cher qui tient nos mitzvot à mesure. Non, à l'achila de matzah. Maro, à l'achila de maro.
Il y a plein de mitzvot à mesure.
Genre?
Je dirais une bêtise, mais
alors, faire la tzedaka, c'est me on nachon. Pardon? C'est où? Chez Nchio. Ouais. Donc, tu peux pas faire une bracha sur quelque chose qui n'est pas quantitable. Quantitable. Tout, on a compris. Ah si, justement, il y a un chiot. On va voir. Que ce soit Pessah, Matzah, Maror ou autre chose, mais il y a quelque chose. Ok? Donc qu'est-ce que il y a une mitzvah assez, et avant de faire une mitzvah assez, je dois faire une bracha, une mala à autre. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a fait le kiddush. Non, le kiddush, c'est pas sur la mitzvah. C'est sur kiddush ayom. Vous allez me dire, on a fait le bon repéri Adama. Non, ça c'est sur le karpas. C'est pas sur la mitzvah de Magid. Attends, Emmet, cette question-là, hein, c'est pas moi qui la pose. C'est Rabbi Moshe Sofer, Achatam Sofer. Pose la question. Il devrait y avoir une mitzvah, une bracha, il n'y en a pas. Il se creuse la tête, et pendant ses piles poulim, il se rend compte qu'en fait, il y a une bracha. Il y a une bracha, seulement elle n'est pas au bon endroit. À la fin du Magid. Alors, on va faire un jeu de diff-douf terrible ce soir. Prenez la fin du Magid. La fin du Magid, donc juste avant de manger, juste avant Motsi, Matzah, Maror, Tatata. Vous l'avez? D'accord? Birkat Gaal Israël. Vous l'avez la bracha?
Oui.
Baruch, Atah Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, Asher Gaalanu, Vekaal Et Avotenu, Vetatata, Vetatapum, Vetatapum. On viendra sur cette bracha après, mais vous l'avez la bracha ici, elle est là. Nous dit Khatam Sofer, il y a une bracha. Bon, mais il y a un problème parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Il faudrait la faire avant le Magid. Ah, alors il te dit, justement, dans 10 secondes tu me redis ta phrase. Juste, je dis la mienne, ensuite tu dis la tienne. Et le Khatam Sofer, il dit, à ma connaissance, je ne connais pas d'autre cas où on fait d'abord l'action et ensuite la bracha. À toi. Mais ne tiens pas d'aïm, ouais, mais ne tiens pas d'aïm. Mais un petit deux secondes. Deux secondes, bande d'Ashkenaz. Deux secondes. D'abord ne tiens pas d'aïm. Oui, mais ne tiens pas d'aïm, n'oublie pas que ta bracha, tu l'as fait alors que tu as encore les mains mouillées. C'est-à-dire que tu es encore dans l'action. Quoi? Ça, c'est pas une mitzvah. C'est quoi? Non, j'ai pas le droit de m'essuyer les mains d'abord. C'est-à-dire que je fais toujours partie de l'action. Alors là, et là j'entends à ma droite, Adlakat Gerot Shabbat. Alors c'est pas parce que aujourd'hui il y a une grande partie du monde séfarade chez Ishtaknez que ça en fait la réalité. C'est-à-dire que vous connaissez les Ashkenazim. Les Ashkenazim, on aime se triturer la tête. Et donc on s'est dit, si jamais on fait d'abord la bracha, on a fait rentrer Shabbat, alors on peut plus allumer les bougies. Avalbet Doré Dorot, Algabet Dorot. Les Rabbanim Sfaradim, ils ont toujours dit qu'il fallait d'abord faire la bracha et ensuite allumer ve'alte balbelli et amour. Donc, c'est pas parce que nous les Ashkenazim on s'est pris la tête. D'ailleurs, c'est Ma'anien, le Khatam Sofer il est Ashkenaz. Et il rentre pas ça. Il dit, à ma connaissance, à la fin il va dire, non, je connais en fait un cas. Mais il parle pas de la Dakat Nerot Shabbat. Peut-être qu'il connaît les Sfaradim. Il dit, il y a un cas où oui, on fait la bracha après l'action. Et il dit, et de là il va apprendre sur la sortie d'Égypte. C'est quoi ce cas? Mais il dit, c'est à guerre chez Tovel le Geruto. Un converti qui veut se convertir, d'abord il doit rentrer au mikveh, et c'est quand il sort qu'il va faire la bracha. J'avais une manienne, c'est une curieuse au niveau de la halakha. La halakha dit que quelqu'un qui se convertit, chez Uyotse mina mikveh ou Yehudi. Et s'il se noie?
Mais
Madino.
Il est
hein?
Il est mort juif, il
n'est
pas juif.
Ah, on l'enterre juif ou on l'enterre pas juif? Bah oui, parce qu'on va le sortir du mikvé à un moment donné. Donc c'est pas ça. Oui, oui, des fois c'est morbide, oui, alors, ce qu'il y a. On est Ashkenaz ou on l'est pas?
On l'est pas.
Voilà. Des Kitzour, à guerre chez Tovel et Gerouto. Un converti qui se convertit. D'abord, il va au Mikvé, ensuite il va à Bracha. Pourquoi? Zichatam Sofer, c'est Barou. Parce qu'avant qu'il sorte du Mikvé, donc il ne peut pas dire Asher Kidesha, nous, Mitzvotav et Tziva, nous. Il ne fait pas partie du nous. Il dit, c'est exactement la même chose pour
Tessa. Et Bracha,
c'est une bonne question, je ne sais pas exactement.
C'est Bracha sur la
Tzvila
ou sur le fait qu'il
devait y aller? C'est un moussard un petit peu. Je vais le faire pour la semaine prochaine. Mais c'est à la mitzvah de l'Itgayer. C'est pas une mitzvah qui est pour toi ou pour moi, mais Mishirotze, Azou Mitzvah Reflezé. Nous dit le Khatam Sofer, c'est Nachon Gam, c'est vrai aussi pour la sortie d'Égypte. Il dit, Agave, c'est une phrase globale sur ce qu'on va faire maintenant qu'on va commencer à lire le Maggid. J'ai une fâcheuse tendance à penser que ce que les gens écrivent, que ce soit dans le Talmud ou nos sages, après, ils croient dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire, s'ils écrivent quelque chose, c'est qu'ils y croient. Or, le Talmud nous dit dans le traité de Psachim, et ça va être repris par le Rambam au niveau de la Halakha, c'est une phrase que vous connaissez. Bechol dor vador, chayav adam, yirot et atzmo, keilo hu, yatsa mitzrayim. Est-ce que c'est seulement une phrase littéraire, ou c'est pour de vrai? J'ai tendance à penser que c'est pour de vrai. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, donc, avant de sortir d'Égypte, tu peux pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est qui le patron avant que tu sortes d'Égypte? C'est Pharaon. Donc tu peux pas dire Baruch Ata Hashem. Non, c'est Pharaon le patron. Donc ce n'est que une fois que je suis sorti d'Égypte, et pour moi c'est quand que je sors d'Égypte, quand je raconte la sortie d'Égypte, je sors d'Égypte, et bien ce n'est que après cela que je peux faire partie du clan Israël et que donc je peux faire la bracha. Et c'est pour ça que la bracha du Maggid, elle est à la fin.
Ça voudrait dire que la bracha, elle est sur le col d'Or Vador. Il dit que la bracha, elle est sur la mitzvah avec Atal Yimcha.
Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que pour que je puisse dire à mon fils que quoi, qu'on est sorti d'Égypte, il faut que d'abord, on sorte d'Égypte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, juste avant de dire la bracha, tu vas dire cette phrase. Le col d'Or Vador, Adam, Yorot Tatsmo. Sinon, tu peux pas.
C'est pour le sipour. Enfin, si on avait de manière plus pratique, si on avait réfléchi, ils ont mis la bracha à la fin. Ça va, ouais. Parce que si tu l'as fait au début, alors tu peux plus parler que avant de la sierra date pendant toute la Haggadah. Est-ce que tu finis, mec?
J'ai pas compris. Pourquoi tu pourrais plus avoir de la sierra date?
Si tu mets la bracha.
Chien, Nilom et Vin, Slicha.
Elle est jusqu'à la fin du Maggid.
Alors, si c'est ça ton problème, si c'est un problème de Limoud. Non, j'entends. Tu dis, si je mets la bracha au début, c'est les mecs qui sont dans les chives, tu vois. Ils disent, on va faire des problèmes là où il n'y en a pas. C'est bien. Ça fait partie du jeu. À la yeshiva, on passe toute la journée à faire des problèmes là où il n'y en a pas. C'est pas ça, d'ailleurs. Tu dis, si on fait la bracha au début, alors j'ai plus le droit de changer mon avis à certaines dates, jusqu'à ce que j'ai fait la mitzvah. Et donc, mais attends, alors très bien. Donc moi, je vais te donner un pitaron. Tu fais la bracha au début, et juste après la bracha, tu dis Pesach Matzah Omaror, Yatzati Yedechova, et après c'est bon, je suis pépère. C'est quand même fait, j'arrive. Bon, on aurait pu s'arranger. Or, c'est pas le cas. Parce que, et comme tu dis, c'est pour la Sipour. Mais Nachon, mais toute la soirée, c'est la Sipour. D'accord? Regarde, je répète encore une fois. Moi, c'est ce que je fais chez moi. Même si des fois, j'ai des Itnagdouyot qui viennent Mishamaim, c'est-à-dire mes parents, ou d'autres personnes autour de la table. Mais si ça ne tenait qu'à moi, la lecture de la Haggadah, top chrono, 9 minutes et c'est fini. Non, mais mettre. Et moi, c'est ce que je fais, ce que j'essaie de faire. C'est qu'on fait toute la lecture d'âme, mais toute la lecture, hein, tic-tac, hein, on dit tout, à voix haute. Mais le plus vite possible, je dis le top départ, je dis le top d'arrivée, et une fois que j'ai fini tout ça, alors on peut commencer à mettre Sipour Yetziat Mitzrayim. Et c'est parti, et les déguisements, et les jeux, et les compètes, et les trucs, c'est Sipour Yetziat Mitzrayim. C'est sûr que la Haggadah, c'est pas ça qui va aider nos enfants à se détraber. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant, comment elle s'appelle cette mitzvah? Veigadeta le bincha. Vous avez dit, ça veut dire quoi en français?
Tu raconteras.
Mais qu'est-ce que ça veut dire le hagid en profondeur? Vous savez, quand on cherche la traduction d'un mot en hébreu, en profondeur, on va voir quoi?
La racine,
effectivement. Ou alors? La racine, la première fois. Ou alors l'araméen. Le targoum, ma chénikra. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Talmud, dans le traité Khoulin par exemple, quand on parle de goud asik? Au goût d'Achik, l'air guide, c'est non, pas à couper.
Non,
c'est
pas une sorte de
méfiance. Et on le rapproche. C'est l'air guide en araméen, ça veut dire rapprocher. C'est ça le but. Agave, c'est à ça que servent les guidim dans le corps. Ça rapproche les parties les unes avec les autres. Et c'est tout ça qu'on. Pardon?
Moi, ligaments, je pensais.
Les tendons, si je ne me trompe pas.
Ligaments,
tendons, ligaments. Tendons, on a Marc Loquette. Dans tous les cas, je crois que les deux, ils servent à la même chose, de rattacher deux parties, non? Bon, Mikitsu, ça rattache. Ça rattache! C'est ça le but du jeu ce soir. Donc si tu crois que tu vas réussir à rattacher tes enfants en leur faisant des pilpoulim, ilkhatim, la brioute! Mais je pense pas que la majorité des enfants, ils sont attachés par ça. C'est-à-dire, donc on a fait notre bracha, en fait on l'a pas fait, mais on sait qu'elle va être là, et on peut commencer notre histoire. Et on commence le Maguid par un mensonge éhonté. Oui?
Le fait de dire je vais lire en 9 minutes, c'est pas comme un peu dire je comprends pas la tefila, je vais la faire hyper vite, après je
rajoute ah non.
ce que je veux rajouter derrière.
Mais t'as pas compris.
C'est mon problème, c'est que je comprends pas la Agada.
Mais je comprends très bien la Agada. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va comprendre la Agada. La Hamik. Mais ce soir de Seder, le but du jeu, c'est pas de lire. C'est pas non plus de faire des pilpoulim. Le but du jeu, c'est Veigat Talebincha. Les sapers et Tziat Mitzrayim. Chazal, au fur et à mesure des générations.
C'est minimum commun.
Chazal, ils t'ont donné un pense-bête. Parce que le problème que t'as, c'est que quand on t'a parlé de te raconter la sortie d'Égypte, on t'a pas dit comment le faire. Donc les gens qui ont un rouge bari, ok, mais sinon on t'a donné un pense-bête. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas la Hamik. Il faut la Hamik, c'est ce qu'on fait maintenant. Pourquoi? Pour savoir quoi raconter le soir du Seder. C'est-à-dire, mais le texte lui-même, c'est pas un texte biblique. C'est-à-dire? Alors, on commence le Maguid et on le commence par un mensonge éhonté. Mais un mensonge bien comme il faut. Et pour le coup, là je vais prendre la communauté Ashkenaz, même vraiment Yekit. Parce que chez eux, le mensonge, il est encore plus vrai. On dit la même chose, c'est tout le monde. Mais ceux qui sont d'une communauté yékite, ils vont se comprendre de quoi je parle. On commence comment quand on lance le Maguid?
Par rapport au fait que c'est une obligation positive, il y a plein d'obligations positives qui n'est pas liée aux femmes, auxquelles les femmes ne sont pas obligées.
Nahon, et pourquoi elles le sont quand même obligées?
Parce que
c'est une obligation. Qui a fait maillot pour toi? C'est Bitsrut Nashim Satkaniot, tout ça. Ok? Comme un pourim. Donc on commence le Maguid, et on commence le Maguid en disant quoi? Alors reprenez le début. On commence au Maguid et là, vous connaissez. Halachmania. Voilà le pain de misère. Shahlo avatana de Hara de Mitzrayim. Voilà, ça c'est bien, ça fait plaisir. Et là, le mensonge. Celui qui veut, qui vienne. Celui qui a besoin de manger, allez, ça fait plaisir. Et je me tourne vers nos frères Yekim dans le monde entier. Où chez eux, il y a, je sais pas, 20 personnes invitées autour de la table du Seder. Et vous savez qu'une des choses extrêmement importantes de préparation, c'est que l'après-midi, avant de recevoir les invités, une des choses les plus importantes, c'est que sur les places de chacun, il y a le petit papier avec le nom de la personne qui va s'asseoir. Chas v'shalom, de ramener quelqu'un. Parce que c'est quoi ce halachmania? Tu dis, tout celui qui a besoin, il vient manger. Mais tu dis ça quand? Quand t'es déjà rentré à la maison devant la chaise avec ton petit papier. C'est quoi ce mensonge, cette blague?
Parce qu'il y a des places vides.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, pour qui?
Pour les invités.
Mais c'est qui?
Qui viendront peut-être.
Tu connais beaucoup de familles, toi, qui en plein milieu du CDR, ils ont des invités. Oh bah ouais, ça fait plaisir, allez bien.
Tu fais ça après qui douche aussi.
Non seulement tu fais ça après qui douche. Tu fais ça à la maison, t'as déjà fermé la porte à double tour. Et tu fais genre Elia Wanavi, mais bon, c'est bien que voilà, c'est moi qui fais bouger la table. Ça va, on la connaît l'histoire.
C'était interdit au contraire.
Alors, c'est Bidiou Kenya. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est-à-dire que tout ça, c'est une grande blague. Si vraiment tu veux inviter des gens, dis à l'Achmania à la synagogue. Tout celui qui a pas où aller, venez, il y en a plein, Shabbatot, il y a plein de Gabaïm dans les synagogues qui font ça. Genre, il y a des familles qui veulent inviter, des familles qui veulent se faire inviter. Mais c'est pour, encore une fois, c'est le troisième coup de gueule qui fait Chazaka que je suis pas d'accord avec ce qui se passe ce soir. Ce soir, je dis Kol Dirfin. Je dis tout celui qui a besoin qu'il vienne. Tu vois Dieu, je les invite à tout le monde. Alors que normalement, j'ai pas le droit. Parce que normalement, lorsque je mange mon Korban Pessah, je peux pas faire cette phrase-là. Parce que Korban Pessah, on est Echal Chaburot Chaburot. Il doit être mangé. C'est-à-dire qu'au moment, je peux inviter autant que je veux, autant de personnes que je veux le soir du Seder. Mais au moment où je vais shriter mon korban, il faut que j'ai la liste de tous les gens qui vont manger ce korban. Je ne peux pas en rajouter un après. Et donc ça veut dire que ce halachmania, une fois que je suis déjà installé, il n'est pas normalement faisable.
Pourquoi il faut savoir d'avance?
Ah! Parce que normalement c'est kol mishpacha ve mishpacha, tout le monde. C'est chad, c'est la bayit. Donc, ok, s'il y a des gens qui veulent venir chez toi dans ta bayit ce soir-là, ça va pas, mais faut savoir. Encore une fois, je viens et je dis je ne suis pas d'accord. Non, j'ai fait trois fois où j'ai dit que j'étais pas d'accord.
Pourquoi, oui. Pourquoi c'est spécialement les yékim
Parce que j'ai rarement vu dans des familles séfarades où il y a des petits papiers avec les noms des gens. Non, je sais pas, peut-être je me trompe. Mais bon. Non, c'est pas. Pourquoi? Parce que tu es yékim? Tu l'as mal pris? Mais chez moi aussi, il y a des petits papiers avec des noms.
Je sais, tu
toi aussi. Mais attends. Ce soir-là, faut pas se battre avec les minagim. Ça marchera pas. Il y a des choses que la halakha nous dit de faire le soir de Pessah qu'on fait pas. Par contre, des minagim, il y a règle à aller à bord. Ok? Genre, ma mère, elle m'a déjà dit qu'on avait un problème cette année. Et donc, je suis en train de me galérer pour trouver des gens à inviter. Tu vois, parce que c'est compliqué d'inviter des gens à Pessah en Israël. Les gens, en général, ils ont où être. Si vous connaissez des gens qui veulent venir chez moi, Bekef, parce que j'ai un vrai problème, ma mère a déjà compté qu'avec le bébé de mon frère, on allait être 13. On peut pas être 13 de sang. Oui, parce que Jésus, ils étaient 13. Alors, tu préfères ça ou les petits papiers? Tu choisis. Les petits papiers, voilà. Donc, El Malasot, on va pas se battre contre les Minagim. On sait que les Minagim, ça bat tout le monde. D'accord? Mais Kitzo, là, une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer dans la Haggadah. On peut rentrer mamash dans la Haggadah et c'est parti. On va rentrer dans le Maggid, donc dans notre mitzvah principale de la soirée. Je vais vous demander de Léat, on a le temps. On va voir de quoi il s'agit. La vérité c'est que cette Haggadah-là, elle est longue. Là, franchement, elle est longue. Alors d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que toi tu aimes... Entre le kiddush et le repas, combien de temps chez toi?
5 heures.
Il regarde sa mère, il ne va pas dire de lui. Voilà.
Et après, on se bat, est-ce qu'il faut manger Kazaïd de Carpas? On va Kazaïd de Carpas, hein, qui mange de toute façon, parce que c'est devenu long. Elle n'a pas toujours été aussi longue, la Haggadah. Parce que justement, on parlait de mitzvah, kol shio, pas shio. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau mitzvati le soir de Pessah? Qu'est-ce qu'il faut faire? Raconter la sortie d'Égypte. Le problème, c'est qu'on ne m'a pas dit exactement quoi faire. La Mishnah, elle m'a oui donné une indication qui est halakha. C'est quoi? Non. Pesach, Matzah, Omarov, c'est la tafora de Zé. C'est-à-dire que, Kol Michelo Amar, Sochat, Varim, Elouba, Pesach, ça ne suffit pas de dire Pesach, Matzah, Omarov. Il faut expliquer un petit peu de quoi on parle. Maintenant, la Mishnah, elle ne te dit pas Pesach, Matzah, Omarov. Elle te dit Sarich la tril bignout ou le Sayem Becher. C'est-à-dire que quand tu racontais la sortie d'Égypte, il faut commencer par ce qui était pas bien et finir par ce qui est bien. Top. Le problème, c'est que la Mishnah ne nous a pas dit ce qui était le Gnout, ce qui était le Shevar. Alors, c'est quoi le Gnout et c'est quoi le Shevar? Ah, vas-y. Alors, toi, tu dis quoi? Toi, tu dis on était à Avadim, et donc, ça, c'était le Gnout. Et le Shevar, c'est quoi?
On est
Bnei Chorin. Donc, je vois que vous avez... beaucoup passé de temps à Soura. Vous venez certainement de la ville de Soura. Vous étudiez chez Rav. Mais pas chez Shmuel. Parce que à Pompédita, c'est pas ça qu'ils disent. C'est ça. Eux ils disent non, quel est Rami Obedavi? Rami Obedavi c'est après. Qu'est-ce qu'ils disent à Pompédita? À Pompédita ils disent c'est pas ça le problème. C'est quoi la gnout? C'est que Mitechila. C'est pas Rami Avedaber, Rami Avedaber c'est moi, je c'est Mitechila ou des Avodazara et Avotenu. On était idolâtres. Vema Shevar. Vachav Kirvanu Ama comme la Avodato. Et maintenant, on est revenu serviteur de Dieu. Donc il est Machloket. Ah oui, c'est des juifs. Il y en a qui t'ont dit, la Haggadah c'est de dire on était esclaves, on est indépendant. Il y en a d'autres qui ont dit, non, la Haggadah c'est de dire qu'on était idolâtres et maintenant on est religieux. Résultat des courses, eh bien, il y avait, pendant toute la période du Talmud, deux styles de Haggadot différentes pour le peuple juif. Il y avait des familles qui disaient la Haggadah de Rav, des familles qui disaient la Haggadah de Shmuel, qui est devenue après Machloket Abaye et Rav Agam. C'est-à-dire, il y avait des familles qui disaient une partie du texte et des familles qui disaient l'autre partie du texte. Ce n'est qu'à l'époque des Savoraïm qu'on a réuni les deux Haggadot pour en faire qu'une seule, celle qu'on connaît aujourd'hui. Attendez, ça veut dire qu'on a une Machloket entre deux C'est quoi la marloquette, elle est sur c'est quoi la fête? Est-ce que c'est une fête nationale? On était esclaves, maintenant on est indépendants. Ou est-ce que c'est une fête religieuse? Ou en France. Pardon?
C'est les deux.
Bah, c'est toute la question. Est-ce que c'est une fête d'Ati ou Léomi? Et qu'est-ce que Khazal ont décidé de faire? Dire que c'est une fête d'Ati Léomi. Quand vous riez. Vous savez, c'est extraordinaire. Et ça, je l'ai reçu. Le Rav Cherki le dit tout le temps, mais à un moment donné, ça rentre. Il dit, allez dans une yeshiva à Bnei Brak, pas loin, hein, à Jérusalem, une yeshiva charedite, passionniste, et voyez si jamais quand un rav il dit que les charedim ils ont raison, quelqu'un rit. Personne ne sourit. Alors c'est barou. Si le Rosh Yeshiva de Ponyovitch il dit que les charedim ils ont raison, tu verras personne sourire. Mais dans le tzibour, à Dati Lehumi, quand on dit que c'est nous qui avons raison, tout le monde rigole. Bah oui, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais ouvda. Et j'ai dit c'est une agada d'Ati Léomi, les gens ont dit ah bah c'est pas. C'est quoi tu parles?
Ça y est comment?
Tu vois? Non. C'est sympa 5 minutes, mais bon. Non, mais mec, c'est une chéla. Est-ce que c'est une agada d'Ati ou Léomi? Et la vérité c'est que Khazal, ils ont mis les deux agadot ensemble. Aval, laquelle ils ont mis d'abord?
La Léomi.
Ils ont mis d'abord la Vadimaïdou. Mais on va voir qu'il va y avoir quand même des petits pics sur l'autre. On va voir. Et venez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec le texte lui-même. Alors, Avadim, Aïno, les paroles de Mitzrayim. Ok.
On est quand même passé à Manishtana.
Ah ouais, j'ai pas fait. Slicha. Oula. Taoucheli. Alors, t'as raison. J'ai dit qu'il y avait deux agadotes. J'ai voulu aller trop vite. Il y avait deux agadotes. La vérité, c'est que ces deux agadotes, elles sont très bien représentées dans notre agada à nous. Et elles ont toutes le même schéma. Une introduction, une batterie de questions qui en fait amène l'histoire et le développement de l'histoire. Donc dans la première Agada on a Alach Ma'ania, c'est notre intro. Diachalu Avatana Dara de Mitzrayim Kol Dirfin Yitev Yisa Kol Yitev Yisa Ashata Avde Shana Abba Ben Echorin. Voilà, c'est ça le pôle du truc. On était esclaves et l'année prochaine on sera libre. Boum. Et là-dessus, le Manishtana. Quoi? Ah, et moi, vous faites quand vous? Après à l'Armania? Nous, lui, d'accord.
Avant.
Ah non, lui, il dit qu'on fait
avant,
bibilou.
Avant.
Ah, fait moi le bibilou, je comprends pas. Ah, t'as vendu bien. Mais non, mais c'est pas les deux Marocains?
Non, il y a un Tunisien.
Ah, et moi, c'est Tunisien. Petit papier. Tu t'appelles? C'est quand même plus facile que de faire tout le monde.
Bibilou, c'est
Agave. Si déjà on est dans les minagim qui ont perdu complètement leur sens, parce que Etmol, les bibilots et les petits papiers, ça je veux bien. Mais attendez, c'est quoi cette histoire de Etmol? D'où ça vient?
C'est pas
ça. C'est quoi?
Au Passar.
Ah, au Passar, mais Al-Batel Mitzrayim, avec le plateau.
C'est la même chose. C'est un symbole.
Non, mais alors si tu fais. Mais alors quel rapport avec le plateau? Tu veux me dire il a passé, alors fais que le papa il arrive et il fait comme ça au-dessus de la tête des gens.
On mettait le maror sur le linteau des portes.
Le maror sur le linteau des portes, je ne sais pas, c'est déjà. C'est pour quoi faire? C'est quoi tu vois? À la fin de Pessah. Top. En Algérie, on m'a dit qu'il balançait le maror par la fenêtre.
Oui. Et les témanis, ils se frappent avec le maror.
Allez.
On les a vus.
C'est ça comme ça. Chéri à la brioute. Chéri. Il faut savoir que ces minagim là, à la base, ils ont un makor. C'est pas... C'est quoi le makor de prendre bibilou et tmol? Makor, il est dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Ah, ils n'ont pas dit bibilou. Mais le makor, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit, là on est rentré dans le Maguide, donc ça veut dire que tout l'objectif c'est d'amener l'enfant à poser des questions. Et donc la Mishnah elle dit Betrilat haSeuda Okrim et haShulchan. On enlève la table. J'aimerais bien voir maintenant les chefs de famille, hein. On enlève la table et c'est avec la table qu'on passe. Non. Aujourd'hui, on a fait plus simple, on prend le plateau. Pourquoi? Parce que, à l'époque, c'était quoi la table? C'était le plateau. On mangeait par terre, à l'ancienne. Où on mettait une énorme, un kehara énorme, dessus. Qu'est-ce qu'on mettait sur la kehara?
Un Un plateau.
Non.
C'est le plateau.
Le plateau. Sur le plateau, on mettait quoi dessus? Plein de matzot. Des salades. Un agneau.
Un œuf.
Quel œuf? Pas un œuf. Mais non! Tu mettais un agneau, et à la place de ton omelette, tu mettais une vache.
Oui.
Pour le Corban Chagiga. Normalement, on n'est pas obligé de se rappeler. Ça, ça me fait penser. Vous avez déjà été dans les minarets à Kotel?
Oui.
Dans les tunnels du Kotel? Il y a la synagogue du Rav Getz. Ouais. Okay, on voit à un moment donné, c'est quand on est devant un grand char, une des entrées du Harbait, où le Rav Getz, quand il est rentré là-bas, au début des fouilles, ils ont trouvé une synagogue. Et quand on a retrouvé dans la Gniza Kairit, au Caire, on a retrouvé des textes qui montrent qu'effectivement, les musulmans, ils ont permis, dans ces tunnels qui menaient au Harbait, en 701, ils ont permis aux juifs de construire une synagogue là-bas. Et le Rav Getz, il a retrouvé donc la synagogue, il était comme un ouf, il a demandé « Mitzrad Adatot, Mitzrad ce que tu veux » de faire réouvrir cette synagogue. Et ils lui ont dit « Non, pour des raisons politiquement correctes, on a muré, on a bétonné l'entrée de la porte. » On a dit « Mais t'inquiète pas, on va te faire une synagogue là-bas. » Maintenant, la synagogue de 701, on l'a fait « Zecher la Mikdash ». Aujourd'hui, on a fait une synagogue « Zecher la synagogue ». Zecher, Zecher, Zecher. Non, à l'époque, t'as pas besoin de tomber de ça. Tu mets ton corban. Et donc, à la fin, donc tout la Kehara, c'était la Shulchan. Et donc, on te dit, Okrim est ta Shulchan. Pourquoi? Parce que normalement, quand tu manges, Stam, Shabbat, tu manges. Et à la fin du repas, tu fais quoi pour débarrasser? Okrim est ta Shulchan. On prend le plateau et c'est où? On a débarrassé. Et donc les enfants ils savent ce que ça veut dire de prendre le plateau, ça veut dire qu'on a fini de manger. Et là tu viens et au crime et t'as shulchan, alors qu'il y a tout encore dessus, l'enfant il dit bah on n'a pas fini. Mais aujourd'hui ça a perdu un petit peu. Donc on t'a pris ton plateau, c'est en souvenir de ça, et tu fais un truc qui est en souvenir d'un autre truc. C'est-à-dire, je suis pas contre, c'est tout ce qu'on fait toute la soirée. Il faut savoir quelle est la source à la base de chaque chose. Donc Bekitsou on a fait Etmol, on a fait Bibilo, on est Besader, et donc il y a les questions du Mishkan. On a présenté à l'Achmania, on arrive au Manishtana. Manishtana, Rabotai, c'est moi de Pashut. Toutes les questions, c'est un, d'une part, un cri vers Avadim Ayinu, et maintenant on est indépendant, et d'autre part, coup de gueule vers ce qui nous manque. Bah d'abord, on mange Kol Azman, d'habitude, Chametz ou Matzah. Bah là, il a Azé, Kolo Matzah. Lama.
Mais d'habitude, on ne mange pas tout le temps la Matzah.
Non, Khamet ou Matzah? Chez Bechol, allez, l'Otan, Orlim, Khamet ou
Matzah?
Mais mon ami, qu'est-ce qui est plus ancien? Lechem à Khamet ou Lechem à Matzah? Lechem à Khamet. Lechem à Matzah, il est beaucoup plus ancien. On mangeait tout le temps de Lechem à Matzah parce que ça va plus vite à faire, c'est plus rapide, c'est, voilà, c'est ce qu'on fait. Qui a inventé, historiquement parlant, d'ailleurs, on a plus ou moins pas mal de preuves là-dessus. Qui a inventé le pain Khametz? C'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens. Et donc, lorsqu'on vient te dire, avant, d'habitude, on mange du pain égyptien ou du pain pas égyptien. Mais ce soir, on mange du pain pas égyptien. Ça veut dire quoi? C'est ensuite, on dit, d'habitude, on mange tous les légumes. Ce soir, maro. J'ai pas besoin d'expliquer, c'est baro. Ensuite, tous les soirs, trempe pas. Et là, on trempe deux fois. D'accord? Avant de vous dire ce que ça représente, c'est quand qu'on trempe deux fois?
Le
carpas, c'est bon.
Le marron dans le carpas.
Ah, c'est vrai que quand tu prends ton couteau et que tu tartines ta feuille de salade avec ta pâte à tartiner charosette, ça s'appelle vachement trempé, ça. Non. Qui c'est qui a levé la main ceux qui ont un charosette qui ressemble à de la confiture? Et levez la main ceux qui ont un charosette. Vous êtes tous des mythos, hein. Mais levez la main ceux qui ont un charosette qui est liquide.
Non, personne.
Liquide.
Personne.
Il y en a deux. Pourquoi tu dis personne?
Oui, c'est parce qu'il rate.
Ah, c'est parce qu'il le rate.
Ils ont mis trop de
jus. Ils ont mis trop de jus de raisin. Rabotai, normalement le charosette il est liquide. Et c'est marqué dans Manishtana. Anachnu tovlim, matbilim, maror bacharoset. Agar, entre parenthèses encore une fois, il y a une raison très simple à cela. C'est quoi le maror? C'est quoi le marron?
Le travail équilibré.
Mais c'est quoi? C'est quoi?
La khassa.
La khassa. La salade. La romaine. Nagib. Et pas du réfort comme nous on prend. Voilà. C'est bonne achat. On n'avait pas de salade en Pologne. Tu veux faire?
Il y
avait rien. Tu veux faire? C'était la dèche. Oui, c'était la dèche. Je rigole ou quoi? Mais quand les juifs de Pologne, mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France. Non, on a comme ça une massorette dans la famille. Mes grands-parents, ils sont arrivés de Pologne, en France, après la Première Guerre mondiale. Et au début, ils étaient choqués. Quand ils voyaient les Français manger de la salade, ils mangent de l'herbe comme les vaches. C'est... On comprend pas. Ils savaient pas ce que ça voulait dire, manger des légumes frais comme ça en Pologne. Il n'y a pas. Bon, non, mais c'est maillage, on fait avec ce qu'il y a. Macheloye, le marron, c'est de la salade. Bon, d'accord. Mais il y a un problème avec la salade. C'est quoi le problème avec la salade? Il y a plein de petites bébêtes. Non, il faut la nettoyer avant le seder. Comment on fait? Comment on fait pour nettoyer la salade? On fait pas un contre halakha. Mais bon, pas shoot. Qu'est-ce qu'on fait?
Vinaigre.
Vinaigre. C'est le meilleur truc pour enlever le harakim. Ah ouais, mais le problème, c'est que si tu le fais avant le Pessah et que tu as laissé tremper, ça devient maror kavouche. Et maror kavouche ou pas sous le lait la seder. C'est un maror qui est plus apte à être utilisé.
Il a mal serré. Mais on le
Oui, mais je sais pas comment on dit kavouche en français.
Mariné.
On
n'est pas obligé de le laisser 2 heures.
Non, mais même quand tu le laisses un petit peu, au niveau ultratique, ça devient déjà problématique. Et donc, pour pas rentrer dans ce problème-là, on se tourne vers Achéno Atémanim, on se tourne vers Néhéménite, qui ont toujours gardé. Non, Nahagou, mais Nahagou comme à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur harosette, c'est vraiment liquide, c'est du srug. C'est-à-dire à l'ancienne. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la salade, ils la mettent dedans. Ça tue tous les derniers harakim qui sont pas partis de... Quand je les lavais à l'eau et machin. Je fais comme ça, et puis je mange. Ah, quoi?
Il y a encore des petites bêtes.
Ah ben non, ils sont maintenant dans le pot de harosette.
On aime bien finir.
Mais c'est harif.
On aime bien finir.
Je vous rappelle juste qu'entre parenthèses, le harosette, c'est censé rappeler quoi?
Le mortier.
C'est vrai que c'est...
Pourquoi c'est liquide alors? C'est bien que ce soit pas liquide, justement, le
Non, mortier. Alors, symboliquement parlant, c'est censé rappeler le tit. Zecharat. Je te rappelle que le tit, le mortier, avant d'être solide, il est liquide. C'est quand il sèche qu'il devient solide.
Bon, mais maintenant, le symbole du mortier, c'est quand même...
C'est une pâte, quand même.
C'est la pâte, ouais.
Avant d'être une pâte, non, il est d'accord. Liquide.
Mais si on parle de symbole...
Ah, Balazov. Tu veux contrer Manishtana? Manishtana marqué contre Ampe. Et toi, tu dis non, on va tartiner.
Mais on peut tremper aussi avec quelque chose qui est... Je veux pas rentrer dans les détails.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est pas obligé d'être liquide totalement pour tremper.
Si tu veux tremper dedans et non pas les nagef roumous, il faut que ce soit liquide.
J'ai essayé de tremper la matza dans du Nutella, c'est bon.
Pas obligé,
c'est dur. Faudra qu'on s'échange des recettes. Mais attends, mais c'est qui clignote là, petit
mouquet?
C'est fini. Bekitso. Manishtana alayla, c'est d'habitude on trempe pas, et maintenant on trempe 2 fois. Nous, avant la main on trempe, on a dit, d'abord le karpas, 2e fois raoset, tout ça s'échouffe pas à l'amertume, parce que le karpas on l'a trempé dans l'eau salée. Tombe seder. Et la dernier truc, d'habitude, ben yoshvim ben mesoubim, alayla, c'est kula nous mesoubim. C'est que toutes les 4 questions du Manishtana sont tournées vers une chose, on était esclaves, et on sort. Mais j'ai dit qu'il y avait aussi un coup de gueule. Vous savez qu'il y a un chiffre qui revient très souvent dans la Haggadah? 4. Et qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Quand il y a 4, il y a 5. Ron, quand tu as 4 points, ça dévoile forcément un 5e. Il y a toujours un 5e qui se cache. Et la vérité, c'est que ces questions-là de Manishtana, vous savez où elles sont marquées à la base? Dans la Mishnah. Sauf que dans la Mishnah, il y a une 5e question. Manishtana alayla azeh. שבכל הלילות אנו אוכלים צלי אש ומבושל במים והלילה הזה רק צלי אש. C'est trop dur de le dire tout le temps. Tous les soirs, normalement on mange soit grillé, soit cuit, soit n'importe comment. Ce soir, on mange que grillé au feu de bois. On parle de quoi?
Du corban.
C'est trop dur. C'est trop dur de dire ça alors qu'on le fait pas. Mais toi qui as étudié la Mishnah, tu sais qu'il y a une 5e question. Et donc c'est un coup de gueule, disant non, c'est pas possible. Quoi, je fais pas encore? Maintenant, une fois que j'ai ouvert avec mon intro, j'ai posé mes questions, j'ai bien montré quel était le kivoun, quelle était la direction, alors je peux rentrer dans mon premier développement. Et le premier développement, il commence comme ça. Avadim aïnou le paro b'mitzraim, donc on était esclaves de Pharaon en Égypte, va yitzienu misham be'at chazaka ou b'zroa netouya. c'est bon. Là, ça y est. J'ai commencé en disant ce qui n'était pas bien. J'ai fini en disant ce qui était bien. J'ai fini. Bah, effectivement, j'ai fini. J'ai plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte. J'ai tellement plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte. Hein?
Je vais revenir à Abraham.
Et... Non, c'est dans longtemps, Abraham. Oulala. Non, non. J'ai tellement plus rien à raconter sur la sortie d'Égypte que je vais te balancer des autres trucs qui, a priori, n'ont rien à voir. Du style. Hein? Attends, vraiment, enfin, c'est la date. Non, non, je vais d'abord te dire un truc qui a a priori aucun rapport. Et je vous demande de me répondre honnêtement. Est-ce que vous y croyez ou pas à la phrase que je vais dire maintenant? C'est la suite. Hein. Non, avant. Veilou. 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 Lotzi. Akadosh Baruch Hu et Avotenu Mitzrayim. Are Anu. Ovanenu. Ovne Banenu. Mishwar Badim Aynu le Paro Ba Mitzrayim. Je traduis. Et si Pharaon n'avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, alors nous, et nos enfants, et nos petits-enfants, nous serions encore esclaves de Pharaon en Égypte. Vous y croyez à cette phrase?
Il n'y a plus de Pharaon.
Non, vous y croyez ou pas?
C'est pas Pharaon le sujet de la phrase.
Non, il s'est trompé.
Non,
qu'est-ce que j'ai dit?
Si Pharaon ne nous avait pas dit.
D'abord, je ne me suis pas tellement trompé, je vous rappelle que c'est quand même Pharaon qui nous a Alpanab. Enfin, moi, c'est d'après ce que je me rappelle, Dieu, il a quand même passé 10 plaies pour convaincre Pharaon de nous aller sortir, donc finalement, il nous a quand même laissé sortir. Mais bon, si Dieu ne nous avait pas laissé, nous avait fait. Bah, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, alors nous, nos enfants, nos petits-enfants, seraient toujours esclaves de Pharaon en Égypte. Et ma question, c'est est-ce que vous y croyez à cette phrase?
Oui, bah, non, il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus
d'esclaves. Marc Loquette, toi tu dis oui, toi tu dis mais non, il n'y a plus de pharaons,
il n'y a pas d'esclaves.
Il
n'y
aurait plus
d'esclaves,
ce serait
Israël, quoi.
C'est pas ce qui a marqué. Toi tu proposes une troisième version. Tu dis s'ils n'avaient pas sorti d'Égypte, alors on se serait assimilé. Je veux bien, mais c'est pas ce qu'il y a marqué là. Là il y a marqué, si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte il y a 3500 ans, alors 3500 ans plus tard, on serait toujours en train de construire des pyramides comme des idiots sous la domination de Pharaon. C'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué ou c'est pas ce qui a marqué? Et je vous ai dit, j'ai tendance à penser que les sages, quand ils écrivent, ils croient à ce qu'ils écrivent. Donc comment on comprend ça? Allez, il aurait pu se passer un milliard de scénarios. Sans qu'on reste forcément pour autant esclave de Pharaon en Égypte. Comme tu dis, je te rappelle qu'au moment où c'est écrit, il n'y a déjà plus de Pharaon. Fini. La dernière pharaonne, Cléo. Elle a mal tourné.
Il n'y a pas marqué à Vadim à Inoukou. Ouais, choix Vadim, ça veut dire c'est, on n'a pas sorti de.
Tu dis, rien fait, toi tu rajoutes un mot qui n'est pas marqué. Mais choix Vadim, Rouhani, Taïnou, les paroles,
mais
Mitzvah.
Mais choix
Vadim.
Non, mais d'accord, mais parce que Shiaboud, ça veut dire Shiaboud.
Ça colle.
Shiaboud, ça veut dire
Shiaboud. Non, Shiaboud, ça veut dire Shiaboud. C'est-à-dire que un des grands problèmes que l'exil nous a fait, c'est qu'on a voulu tellement tout rattacher uniquement au spirituel parce qu'on est devenu chrétien, que pour nous il y avait le matériel, c'est l'égoïme, le spirituel c'était nous, ce qui est faux, totalement faux. Donc on a commencé à donner des explications à des termes qui sont évidents. Quand on parle, je te parle en français, je te dis l'esclavage. La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'esclavage spirituel. Ah si, shi'abud, c'est ça. Non, ça vient du mot eved. Eved, d'abord et avant tout, c'est Eved.
Ça peut être aussi.
Non, attends, Alakha, c'est quoi un Eved?
Ah,
d'abord et avant tout en hébreu, Eved, ça veut dire Eved. Nekuda. Après, tu veux me dire là-dessus, c'est toutes les explications ésotériques, elles sont acceptables, il n'y a aucun problème. Aval en mikra yotse mide pshuto. D'abord, il faut que ça colle avec l'explication numéro 1 du texte. Et donc le texte, il te dit que tu seras encore esclave de Pharaon en Égypte. Et ça me pose un problème parce qu'il n'y a plus de Pharaon.
Oui, parce qu'il n'y a plus de pharaons, parce qu'il n'y est plus.
Ah bon?
Parce qu'on n'y est plus.
Mais je te rappelle que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y avait encore des pharaons. La preuve, c'est qu'il y a un Shishak qui est venu nous prendre la tête juste après Shlomo. Il y a Paro Necho qui est venu, qui a tué Yoshiaou Melech Yehuda, bien après la sortie d'Égypte. Qu'après ça, on a eu encore des incursions de pharaons, que ce soit Amenhotep, ou que ce soit Akhenaton, ou que ce soit Toutankhamon. Il y a eu Cléo. Ah non, mais je reviens sur elle. Parce que Cléo, qu'est-ce qu'elle a pu nous prendre la tête? Elle n'était pas du tout copine avec Hérode. Ah non, pas du tout. Bon, le problème, c'est que Hérode, c'était le copain de Marc-Antoine, et elle couchait avec Marc-Antoine. Conflit d'intérêt, qu'est-ce que tu veux? Non, ça veut dire, elle n'a la sorte. On est sorti d'Égypte, il y avait quand même des pharaons. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La vérité, c'est que cette problématique, elle a été mise en valeur par le Rav Kook, et il va donner une réponse. Réponse qui est assez incroyable. Il dit, Bémet, si Dieu ne nous avait pas fait sortir de nos ancêtres d'Égypte, alors il ne le dit pas avec ces mots-là, mais il dit que le monde serait rentré dans un frise. Aolamaya nikpa. On serait gelé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il explique. Il dit que le rayon, l'idée d'évolution. Pourquoi ça nous dérange cette explication que si on n'était pas sorti d'Égypte, alors on serait 3500 ans plus tard toujours esclaves de Pharaon d'Égypte? Ça nous dérange parce qu'on est des Occidentaux. Et que dans la culture occidentale, l'idée de mouvement, l'idée d'évolution, l'idée de faire améliorer les choses, c'est une des bases de notre société. Dit le Rav Kook, l'idée même que les choses peuvent évoluer, c'est le chidouche de la sortie d'Égypte. Et te dit, les civilisations, les seules civilisations qui ont pour fer de lance d'avancer, c'est les civilisations qui sont en contact ou qui ont été en contact de près ou de loin, que ce soit par l'intermédiaire du christianisme, avec la sortie d'Égypte. Il dit, les civilisations qui n'ont pas été en contact avec la sortie d'Égypte n'ont pas bougé. Et comme exemple, on peut réciter les civilisations d'Amérique centrale, les Aztèques, Incas, qui n'ont pas bougé d'un iota en 2000 ans, jusqu'à ce que Cortés les ait massacrés tous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bougé. La civilisation aztèque, elle n'a pas bougé en 2000 ans. Cloum, les mêmes pyramides d'échelle, de madrigaux, d'escaliers, les mêmes sacrifices humains, les mêmes dieux, rien n'a bougé.
Mais en quoi les Occidentaux étaient liés à la
Le monde occidental, c'est le monde qui est basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la culture judéo-chrétienne. Donc oui, sortie d'Égypte. Mais alors, Foucault, il va donner également l'exemple avec les Chinois. Il dit jusqu'à nous, où il y a un début de jusqu'au XXe siècle, la Chine a été complètement écartée du monde occidental. Volontairement, elle ne voulait pas se mêler. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que toutes les inventions que l'Europe a mis en valeur, que l'Europe a découvert depuis la Renaissance, 17e, 16e, fin de 16e, 17e, toutes ces inventions, toutes ces découvertes scientifiques ont finalement amené à ce qu'on appelle la révolution industrielle et la génération d'Internet. Toutes les découvertes depuis la Renaissance jusqu'à maintenant qui étaient faites au 16e, 17e, étaient déjà connues en Chine au 11e siècle. Seulement la différence, c'est qu'ils n'en ont pas fait une révolution industrielle. Parce que c'est une mentalité là-bas, c'est pas parce que tu découvres quelque chose de nouveau qu'il faut changer le monde. Qui t'a dit que le monde qui va changer, il sera meilleur que celui que tu as eu déjà? C'est une façon de penser. Et finalement, le Rav Kook vient et termine en disant, je t'ai donné des exemples sur la vie, c'est marqué dans la Torah. Et il nous donne comme exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez entendu parler de Yosef? Vite fait. Ouais. Lui aussi, il a eu un problème avec un pharaon. Et c'est très bizarre, le pharaon de Yosef, on nous dit un truc très bizarre, il a fait un rêve. Alors, je vous demanderai pour jouer le jeu, vous êtes maintenant Khartoumem Mitzrayim. Vous êtes maintenant les plus grands sages de l'Égypte. Et moi je suis pharaon et j'ai un gros problème parce que j'ai fait un rêve, ça fait plusieurs nuits là déjà. Je comprends pas bien, alors messieurs, dames, veuillez m'aider. Alors voilà, je vous explique hein, en deux mots. Alors je fais un rêve très particulier où au début, il y a plein à manger. Après, il n'y a plus à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là tous les chachmei Mitzrayim, je sais pas, je peux me mettre une chéla. Et il y en a qui dit, écoute, j'ai un pote... Pour l'instant, il est en prison, mais bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas lui. Bon, écoute, fais-le venir. Il arrive, Yosef, et là, Paro, il lui dit, écoute, j'ai fait un rêve incroyable, je t'explique. Hein. Au début, dans mon rêve, il y a plein à manger, il n'y a pas beaucoup à manger. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autant plus que, en hiéroglyphe, le symbole qui parle d'une vache, c'est le même symbole qui parle de l'année.
Ouais,
donc. Ça, donc, cette vache, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait beaucoup à manger, après il n'y avait pas beaucoup à manger cette fois. Et là, Yosef, il lui dit, écoute, ton rêve, ça veut dire qu'au début, il y a beaucoup à manger. Et il n'y a pas beaucoup à manger. Et la parole lui dit, il n'y a pas plus. Tu voudrais pas être Premier ministre? C'est génial, t'en mords. Quoi, j'ai pas compris. Pourquoi vous riez? Parce que c'est évident. Alors si vous, tout le monde, on a tous trouvé, on est plus fort que des Khartoumim. On est plus fort que des mages égyptiens qui sachent transformer l'eau en sang, tchik-tchak. Pourquoi personne qui a pensé à cette explication? Effectivement, certes, une explication hors du commun. Mais parce que c'est pas possible quand t'es Khartoum de penser à cette explication-là. Parce que ça veut dire quoi qu'il n'y a pas à manger en Égypte? C'est qu'au début, il y aura beaucoup à manger, et qu'après, il n'y aura pas à manger. La famine. Pas manger. Alors pourquoi c'est pas possible pour un Khartoum d'arriver à ça? Parce qu'il y a toujours à manger en Égypte. Pourquoi il y a une famine en Égypte? Qu'est-ce qu'il faut?
Le Nil.
Que le Nil ne marche plus. Il y a peu de ce qui va arriver à la sortie d'Égypte. Et donc c'est exactement ça que dit le Rav Kook. Si jamais on n'avait pas, on ne nous avait pas sorti d'Égypte, il n'y aurait pas eu cette idée qu'on peut changer le monde. Et là, on a compris ça, très bien, tout va bien, on est pépère, on est lancé. Mais il faut quand même faire un petit pic sur la deuxième Agada. Vous vous rappelez la Agada d'Atit? Suivez bien avec moi le texte. Parce qu'on le connaît tellement par cœur qu'on en oublie ce qu'il y a marqué. Et par là, on terminera pour aujourd'hui. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים. Entre parenthèses, כולנו רבנים, genre on est les rabbins quoi. כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו להניח תפילין. Non, c'est pas ce qu'il y a marqué. Mais c'est une phrase comme ça, elle voudrait rien dire. Parce que je comprends pas. Si raconter la sortie d'Égypte c'est une mitzvah. Ah, pourquoi il y a un Hava Amina? Pourquoi il y a une idée de penser que les rabbins ils seraient exemptés de cette mitzvah? Là, on nous dit, même les rabbins, ils doivent raconter la sortie d'Égypte.
Parce qu'ils en parlent tous les jours.
Et quel rapport?
Bah, quand t'es rabbin.
Et je mets les films tous les jours.
Oui.
Et alors bah, donc, si j'ai une mitzvah de mettre à un moment donné les films. Disons que moi je suis un grand rabbin, je mets la film toute la journée. J'ai quand même une mitzvah à un moment donné de mettre les films. Donc ça ne viendrait pas à l'esprit de personne de dire. Même les rabbins qui parlent de Shabbat toute la journée parce qu'il enseigne ma sacrée Shabbat, même lui il doit faire Shabbat.
Mais elle nous dit que c'est justement une mitzvah.
Mais c'est une mitzvah.
C'est une mitzvah,
donc pensez que c'est juste. Ah non, ça, ouais, mais tout le monde, c'est une mitzvah, c'est compté dans la liste des mitzvot, donc il n'y a pas de problème.
Mais c'est une mitzvah le jour de Pessah, le soir de Pessah.
Et c'est une mitzvah le soir de Shabbat de faire Shabbat.
Oui.
Et pourtant, mais... peut-être que moi je suis un rabbin qui parle de Shabbat toute la journée. Pourquoi t'as un Hava Amina de penser. Que le rabbin il voudrait pas faire Shabbat.
Bah justement, c'est parce que c'est la même chose, parce que faire Shabbat et étudier Shabbat c'est pas pareil. Tandis que
alors,
étudier.
Que là, c'est raconté.
Mais c'est peut-être la question, je dis pas, je fais rien.
Mais non, je comprends pas ce que tu dis.
La veille, la veille de Pessah, j'ai étudié la Torah et donc j'ai parlé de la Yetziat Mitzrayim qui. Tout le nom de la
j'ai pas fait ma mitzvah de Sipour Yetziat Mitzrayim.
Parce que c'était pas ce jour-là, mais c'est la même chose.
Bah, si j'ai mis ma plata de Shabbat le mardi, j'ai pas fait ma mitzvah de Shabbat non plus.
Naron,
mais parce que. Et pourtant, t'as aucun Hava Amina de dire, sache que même les rabbins qui mettent leur plata de Shabbat le mardi parce qu'ils ont envie de faire un kiff, même eux ils doivent faire Shabbat. Non, c'est si c'est une mitzvah de faire Shabbat, même le rabbin il fait comme tout le monde, il doit faire la mitzvah.
C'est le problème de Korah. On a plein de livres dans la maison, on a plein de livres.
Non. Par quel rapport avec la sortie d'Égypte?
Non, mais
vous comprenez mon problème. Le problème c'est que raconter la sortie d'Égypte c'est une mitzvah. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire, même les rabbins sachent qu'ils vont faire, ils doivent faire cette mitzvah là?
C'est un but, cette mitzvah, et j'ai atteint mon but.
C'est-à-dire
non, même les rabbins, les enfants,
ils savent. Il y a Sipour Yetziat, c'est pour comprendre.
Depuis quand on a le droit de regarder dans ce qu'on s'appelle Ta'ame HaMitzvot? On a une mitzvah, parce qu'on a une mitzvah. Après, il n'y a pas de question de savoir où est-ce qu'on est dans l'échelon de la connaissance toranique. Une mitzvah, je fais la mitzvah. C'est tout.
Sauf que le but c'est d'aller mincra peut-être. Alors, si l'enfant il connaît.
Tu le racontes aux enfants. C'est pas grave. Donc les rabbins.
Ah, gaffe, s'il n'y a pas d'enfant, t'as quand même la mitzvah de le faire.
Voilà, c'est
même à toi tout seul, tu vas te la raconter. Donc c'est à dire que il y a une mitzvah. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de te dire même les rabbins ils doivent la raconter.
Parce que c'est la marque de Shmuel. Même les rabbins ils doivent raconter à
Vadimayinu. Oh voilà. Parce que Béhémet les rabbins ils sont pas contents de la première version de la Haggadah. Parce que pour un rabbin, c'est plus sympa que qui doivent s'occuper de tous les trucs extérieurs, des impôts, de l'éducation, de la santé, machin. Si c'est Pharaon qui gère tout ça, nous, c'est plus sympa pour étudier la Torah. Mais si maintenant on sort d'Égypte, on va devoir s'occuper de tout ce genre de trucs. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite, bien évidemment. Et donc il te dit non, même les rabbins, ils doivent raconter la sortie d'Égypte.
Moi, il était rabbin quand même.
Enfin. Mais tu remarqueras. On n'a pas mis son nom Rav Shmuel. Non, Sam, je ben, j'ai dit, mais il y en a qui ont compris que c'était ça l'idée. Barou. Mais c'est un pic sur la deuxième Agada, c'est Barou. Maintenant, j'ai raconté la sortie d'Égypte. J'ai dit, Avadim Aïnou le Paro Ben Mitzrayim, Veotsiano, Hachem Loganou, Bia, Misham, Beatra Zakam, Zoran Touya. J'ai fait mon devoir. Seul problème, c'est que pour moi qui raconte, quand je suis celui qui écrit la Agada, ce que je viens de raconter, c'est un événement présent, passé, futur.
Présent.
Passé. J'ai raconté. Non, là je viens de dire. Avadim Alinou, le parent de Mitzrayim. C'est du passé. Et le problème, c'est que la fin du premier paragraphe me dit. Vechol amarbe le saper beitiat Mitzrayim arezé meshouba. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui en rajoute. Maintenant, ça vous est déjà arrivé de raconter une histoire que vous n'avez pas vécue mais qu'on vous a transmise? Ouais, ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous pouvez raconter de cette histoire?
Ce qu'on vous a raconté.
Tu peux pas en rajouter. Le seul qui peut... C'est-à-dire, tu peux m'étonner. Oui, tu peux m'étonner. C'est nakhon. Mais pour de vrai. Le seul qui peut en rajouter, en rajouter, en rajouter, c'est qui? Celui qui a vécu les événements. Celui qui a... Ou le Tunisien, on a déjà dit, mais ça, on a dit El Malasot, pour de vrai. Celui qui a vécu les événements, lui, il peut en rajouter Ensof. Et donc, ça veut dire que si on te demande ici d'en rajouter, alors que tu viens de raconter une histoire au passé, t'as plus d'autre choix que de dire, il va falloir que tu racontes maintenant une histoire au présent. Ce qui veut dire que la Haggadah, la première du moins, elle est sur trois plans. On a commencé sur un plan passé, et la semaine prochaine, on va devoir s'attaquer à la Haggadah au présent, et à la Haggadah au futur, pour pouvoir nous faire rentrer dans la deuxième Haggadah. Donc on a du boulot jusqu'à la semaine prochaine. Et chez Elano Bentaim, Shavua Tov. D'accord.
Rabbi Halal, on
mes Haggadot reviennent chez moi.
Voilà. Ah.